Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Marthe Cacou.
Nous sommes le mardi 11 juillet 2023, tout de suite les faits majeurs. Élections locales et régionales, élections locales, régionales et municipales couplées du 2 septembre prochain dans la région du Tonkwi. La CEI a sensibilisé les potentiels candidats relativement aux formalités légales des dossiers. Les échos dans quelques minutes. Toujours à propos de ces scrutins, le découpage électoral qui sera appliqué est celui de 2018, contrairement à celui de 2010. Comment expliquer ce revirement de la CEI? Quelles conséquences cette décision pourrait-elle avoir sur le déroulement des futures élections? C'est à cette question et à bien d'autres que répondra un enseignant en droit administratif à l'université Péléforo Gonkoulibaly de Korogo, Dr Landry Amoussou, est l'invité de la rédaction. Mais avant cette étape, nous nous intéresserons à la quatrième session de l'Assemblée générale de l'Alliance G5 Sahel. À l'ouverture des travaux, le président mauritanien a plaidé pour le retour du Mali dans cette alliance régionale militaire. Enfin, nous parlerons également du contrôle biométrique de pointage à l'école, une technique devant permettre à l'État ivoirien de payer la dette juste aux opérateurs des établissements scolaires privés, tout en ayant un regard sur l'effectivité de la présence des élèves affectés dans les 10 établissements. Voilà pour l'ossature. Bonjour à tous. La méthodologie du respect du quota de 30% des femmes sur les différentes listes exigées était récemment au cœur d'une rencontre à la salle de conférence de la préfecture de Mons. Cette séance de sensibilisation a réuni les représentants des potentiels candidats des prochaines élections à venir, c'est-à-dire les régionales et municipales couplées du 2 septembre prochain, les associations de femmes, de jeunes ainsi que les organisations non gouvernementales. C'est à l'initiative de la mission conjointe de la Commission électorale indépendante et du corps préfectoral. Témoin pour Radio de la Paix, Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkwi.
De prime abord, le superviseur de la CEI des régions du Tonkwi et du Bafing s'est voulu clair et précis lié au dépôt des candidatures qui ont débuté depuis le 1er juillet. Kwame Adjumani Pierre.
Cette année, la loi du quota de 30% des femmes sur votre liste va être appliquée. Il y a deux méthodes. Première méthode, c'est ce qu'on appelle les listes zébré. C'est-à-dire que si vous mettez une femme, la personne qui vient, c'est un homme. Une femme, un homme. Jusqu'au 30% minimum. Vous pouvez aller au-delà. Ça dépend de vous. Deuxième méthode qu'on vous donne, vous pouvez avoir deux femmes, un homme. Deux femmes, un homme. Ou bien deux hommes, une femme. Deux hommes, une femme. Jusqu'à atteindre les 30%. Mais les deux ne se font pas sur la même liste. Si vous choisissez de faire la liste zébrée, vous continuez jusqu'à la fin. Si vous choisissez de faire l'alternance, vous continuez jusqu'à la fin. C'est très important. Si vous ne le faites pas, votre liste sera invalide.
Et de quoi a enrichi davantage la connaissance des potentiels candidats sur d'autres dossiers exigé.
Quand on vous dit que vous avez droit à 55 conseillers, vous devez faire l'effort d'avoir les 55 conseillers. Si vous venez avec une liste avec 54 conseillers, votre liste est invalide. Si vous venez avec 56, bien entendu, on va retirer l'autre. Donc faites tout pour avoir le nombre exact de conseillers et conseillères sur vos listes. Et les pièces de chaque conseiller est la même chose que celui ou celle à tête de liste. Tout le monde est conseillé.
Réaction d'un participant en fin de rencontre.
On nous a dit Conseil national des droits de l'homme. Je voudrais ici demander la CEI d'être strict sur ce fait. Les listes qui ne respectent pas cette parité-là soient purement simplement écartées.
La fin des dépôts des candidatures est prévue le 19 juillet, a indiqué le superviseur de la CEI, Stéphane Adams, Mans Radio de la Paix.
Exécution du projet d'appui au renforcement de la gouvernance des zones du Nord et de l'Est pour consolider d'une part la cohésion sociale et prévenir l'extrémisme en Côte d'Ivoire, puis contribuer d'autre part à une sécurisation participative plus efficace des populations afin de briser la méfiance entre elles et les forces de défense et de sécurité. Face donc à l'actuel contexte sécuritaire dans la région du Bunkani, l'ONG Open Society Africa et la section ivoirienne du Forum de la Société Civile de l'Afrique de l'Ouest ont suite à une étude socio-sécuritaire organisée en collaboration avec les cellules civilo-militaires un atelier d'échange sous forme de panel. On en sait un peu plus avec Jérôme Kouassi, notre correspondant sur place.
Il s'est agi de la présentation par les responsables du rôle régalien des FDS et comment communiquer efficacement avec la police, la gendarmerie nationale, le cantonnement des eaux et forêts et le tribunal de Bouna. La portée d'un tel panel avec Kwadio Konan, chef de projet au forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire.
Faire en sorte que les populations et les forces de l'ordre puissent renforcer leur collaboration, de sorte à permettre à ces communautés de mieux s'orienter en cas de besoin.
De telles rencontres multipliées pourront améliorer la connaissance des prestations de nos services, a suggéré Afissata Ouattara, la présidente de l'Union des femmes de Bouna.
Il y a plusieurs services qui sont représentés à Bouna, mais nous ne savons pas ce qu'ils font. Donc, il y a ce genre de panel et puis des journées portes ouvertes. Ça va nous permettre d'entrer dans ces services-là et de connaître ce qu'ils font.
Le tribunal de Bouna a demandé aux populations d'ici de faire preuve de tolérance et privilégier le règlement à l'amiable en cas d'incompréhension avec les déplacés burkinabés demandeurs d'asile. L'appel de Balassié Cambry, conseiller municipal.
Aujourd'hui, nous sommes dans une zone d'alerte des réfugiés qui ne sont pas censés aussi connaître nos lois ici. J'invite la population à se référer en cas de difficulté, en cas de non-compréhension aux autorités de se réfugier vers la police, la gendarmerie ou la brigade.
Justement, les procédures à suivre en cas d'infraction a été le thème développé par le panéliste Konan Kwame Jules, le substitut résident du procureur du tribunal de Bouna. Jérôme Kwasi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Pluie, diluviennes, éboulements et autres catastrophes naturelles, plus de 300 personnes ont été sinistrées au cours de ces dernières semaines à Iri, dans le nord du département du Divo, à la suite d'inondations. C'est ce que nous apprend le secrétaire général de la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Il plaide aussi pour une participation active des présidents de jeunesse de Divo en vue d'une collecte de données sur tout cas dans leur quartier afin qu'un rapport documenté soit transmis au ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'était au cours d'un atelier pour le bilan trimestriel. Là-dessus, on écoute les explications de Yoro Isidore Lowry.
Ce trimestre a été marqué par le début des pluies qui ont fait beaucoup de dégâts. 47 ménages ont été impactés au niveau de la sous-localité de Iré, qui ont touché près de 300 personnes. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Au niveau de Divo, il y a certaines zones où à chaque fois qu'il y a la pluie, les maisons sont inondées, mais on n'a pas le retour. Tel que le quartier libanais, Briboré et à Konankro, où c'est des zones à risque quand il pleut, on lance un appel à nos présidents des quartiers, présidents des femmes, de nous signaler ces cas-là pour qu'on puisse les documenter. Mais malheureusement, on n'a pas pu avoir des cas chiffrés. Pour parler de la situation de la cohésion sociale, il faut dire qu'au niveau de notre région, il y a des informations qui ne nous parviennent pas. La commission régionale est composée de 15 membres. Il y a la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui est partie prenante. Donc, ils doivent nous communiquer tous les conflits qui sont gérés au quotidien par les chefs du village. Mais malheureusement, ils n'étaient pas à la réunion. L'atelier que nous venons d'avoir, c'est de faire le bilan. Et ce rapport, on va le consolider. Il va aller au ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour action.
C'était Isidore Yorolori, secrétaire général de la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Il était au micro d'Abel César Cassin, notre correspondant dans la région du Lodibois. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a procédé récemment à Boaké au lancement de la phase 3 de son programme dénommé Focus Jeunes. Cette activité doublée d'une formation sur le leadership avait pour objectif de dégager les problématiques liées aux jeunes pour une meilleure prise de conscience. Les détails avec Joseph Assalé, notre correspondant dans le Boaké.
À la lumière de son livre intitulé « Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet », la coordonnatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a échangé avec les jeunes de Boaké sur le leadership. Selon Ephrasie Kwasi Yao, les jeunes doivent avoir une vision et saisir in fine les opportunités qui s'offrent à eux. Mais cela sous-tend une condition, prévient le ministre Amadou Koné, par ailleurs parrain de cette activité. Cet appel, les jeunes de Boaké conscients à l'image de cette jeune fille. À noter que le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire œuvre pour une meilleure prise en compte des questions liées au genre dans les politiques publiques et privées. L'organisation a déjà remporté il y a 5 ans le meilleur prix du programme africain de valorisation des compétences féminines. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
remettre à l'État ivoirien de payer la dette juste aux opérateurs des établissements scolaires privés tout en contrôlant par ailleurs l'effectivité de la présence des élèves affectés dans les 10 établissements à travers un contrôle biométrique de pointage. Le sujet était 3 jours durant à Yamoussoukro au cœur d'un séminaire de formation des directeurs régionaux et départementaux du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La suite avec vous, Émile Yao.
Un suivi de proximité du contrôle biométrique pour tous les élèves et également permettre à l'État d'avoir des statistiques fiables sur le nombre d'élèves affectés dans chaque école privée du pays afin de payer la dette juste aux fondateurs. Akabla Eric Désiré, directeur technique adjoint de la structure ABS.
Ce logiciel est un logiciel complet de gestion d'école, en plus d'être un logiciel de contrôle biométrique. Donc il permet à l'État de payer la bonne dette, il permet aux fondateurs de savoir combien d'élèves affectés et non affectés dans son école sont présents chaque jour.
Ce projet est d'importance pour le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, indique Yavo Alain, directeur général de la formation initiale dans le dit ministère.
Ce système permettra justement de capter l'effectivité de la présence des élèves dans les établissements. C'est en cela que justement ce processus est important pour le ministère.
Un bilan satisfaisant de cet instrument dans l'enseignement général a été déjà dressé, explique Akrou Bertin, coordonnateur adjoint du PAGEDES, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens.
La dernière fois que nous avons fait le décompte, il y a 1 301 000 élèves qui sont boursiers et qui sont dans les écoles, ce qui n'était pas évident avant. La satisfaction que nous tirons aussi que les élèves eux-mêmes, qu'on avait pensé qu'ils allaient être réticents, c'est eux-mêmes qui sont les premiers à souhaiter cela.
Implémenté depuis bientôt 3 ans, ce projet est financé par la Banque mondiale. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Facilitation des transactions financières pour les commerçants, le ministère du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME a lancé en partenariat avec les organisations de commerçants une nouvelle carte qui a la particularité d'être monétisée sur les caractéristiques et avantages de ce document. Écoutez plutôt les précisions de Bois Alexandre, le vice-président de la FENACSI, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire.
Notre réaction, elle est favorable parce qu'il faut dire que la carte aux uns des commerçants a été mise en place pour la reconnaissance d'abord de l'identité des commerçants. Et chemin faisant, c'est une carte qui sera obligatoire. Et quand vous entrez même dans l'administration publique pour faire un document, que vous dites que vous êtes commerçant, on vous demande de présenter la carte de commerçant. Donc le système monétique est un complément qui est venu s'ajouter à la carte aux uns des commerçants pour faciliter les achats et les transactions des commerçants. Parce qu'ils ne peuvent pas toujours se déplacer avec de fortes sommes sur eux. Donc ça permettra en même temps de faire d'une pierre deux coups la carte professionnelle et la carte bancaire également. Avec la carte, ils n'ont pas besoin encore d'aller dans une banque pour déposer leur argent à la banque. À terme, tous les commerçants devraient avoir cette carte qui est une double carte également.
Bois Alexandre, vice-président de la FENACSI, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Et puis, la 7e édition du LF Festival se tiendra du 26 au 29 juillet prochain. Le lancement de ce rendez-vous culturel annuel a eu lieu vendredi dernier à la mairie d'Adiaké. Le LF Festival, ce sont des compétitions sportives, artistiques et culinaires. C'est aussi une véritable attraction économique pour la localité. Le reportage est signé Ghislain Clubali.
Le LF Festival s'annonce en fanfare. Initialement tenu autour d'une course de pirogue, d'autres activités ludiques ont été intégrées au fil des années. Plusieurs festivaliers sont attendus, de quoi booster l'économie de la ville, nous fait savoir ici le maire, Iensie Yakuba, promoteur.
LF s'adresse du monde. Finalement, c'est l'économie locale qui est boostée pendant la période. Là, on a commencé par un jour, là, on fait 3-4 jours maintenant. Simplement parce qu'on veut avoir du monde. L'Adiaké, c'est une zone hospitalière. On aime recevoir les gens, on sait les recevoir. On veut les garder le plus longtemps possible. Et c'est vrai que c'est du gagnant-gagnant. Ils y viennent, ils prennent du plaisir, mais en même temps, l'économie locale gagne. Nos femmes vendent plus de poissons, les vendeurs de tomates vendent plus, les marques qui font les maquis gagnent plus d'argent. Bon. Pendant cette période-là, la ville est en effervescence et on y gagne.
2023, année de la jeunesse, la promotion des valeurs se fera à travers cette grande rencontre culturelle. Ibrahim Diabaté, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire.
La culture rassemble, la culture fait la promotion de valeurs, que sont la solidarité et la complémentarité, tant de valeurs qui peuvent permettre à notre pays de se développer. Il y a plus de 60 ethnies aujourd'hui. Je pense que c'est une richesse pour nous, il faut puiser là-dedans. Et le Conseil est solidaire de cette initiative. festival qui est bientôt à sa 7e édition et qui mobilise tous les acteurs, mais en plus de cela, donc, permet aux jeunes de pouvoir gagner, donc, fructifier leurs revenus.
Cette année, l'Est de la Côte d'Ivoire est la région invitée.
Passe maintenant à l'actualité hors des frontières ivoiriennes. Le président mauritanien a plaidé hier lundi pour le retour du Mali dans l'organisation G5 Sahel, une alliance militaire régionale luttant contre les groupes terroristes que ce pays a quitté en mai 2022. Mohamed Ould Cher El Khazouani a regretté le retrait de ce pays de l'organisation et de sa force conjointe. S'est exprimé dans un discours prononcé à Nouakchott pour l'ouverture des travaux de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, une plateforme de 27 partenaires bilatéraux et bailleurs créés pour mobiliser l'aide internationale en vue du développement de la région, rapporte l'AFP. Massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Le procès de Moussa Dadis Camara, jugé pour un an, a repris hier après avoir été suspendu plus d'un mois à cause de deux grèves successives. C'est ce qu'a constaté un journaliste de l'agence France Presse. Les avocats refusant de plaider parce qu'ils disaient n'avoir toujours pas été payés. On en arrive à l'invité de la rédaction. Il s'agit d'un enseignant en droit administratif à l'université Pélé-Férougue Coulibaly. De Korogo, Dr. Landria Moussou se prononce sur le découpage électoral qui sera appliqué, à savoir celui de 2018, contrairement à celui de 2010, comme l'annonçait auparavant la CEI, et cela à la faveur de la prochaine élection locale du 2 septembre prochain. Comment expliquer ce revirement de la commission électorale indépendante? Quelle conséquences cette décision pourrait-elle avoir sur le déroulement des futures élections? Élément de réponse dans cet entretien que je vous invite à suivre immédiatement et qui est conduit par Jean-Claude Comé.
Docteur Landria Moussou, bonjour.
Bonjour.
La CEI, la Commission électorale indépendante, avait insisté sur le maintien d'un décret. Ce décret-là, pour être précis, c'est le décret numéro 2010-233 du 25 août 2010, portant définition du ressort territorial des régions, départements, sous-préfectures et communes de Côte d'Ivoire. Et c'est un décret qui avait été signé à l'époque par l'ex-président Laurent Gbagbo et qui parlait notamment de communalisation de la Côte d'Ivoire. À l'époque, qu'est-ce qui avait guidé, selon vous, les dirigeants d'alors?
Oui, le président d'alors, qui s'était positionné comme le père de la décentralisation, en tout cas voulait effectivement diminuer les charges de l'État et responsabiliser de plus en plus les populations. Donc il y a eu ce vaste mouvement de communalisation qui effectivement avait conduit à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, à plus de 3000 communes.
Alors la question se pose, hein, quelle relation il y a entre un découpage administratif et un découpage électoral?
Il y a eu une augmentation de la population. La population qui était là en 2010 n'est pas la même que celle qui est aujourd'hui en 2023. Donc nécessairement, l'administration doit tenir compte des nouvelles données qui sont à sa possession pour soit augmenter les bureaux de vote en leur possession et parfois même effectivement changer d'autres circonscriptions qui ont évolué. Il y a une corrélation. Si en 2010, il n'y avait que 3 bureaux de vote en fonction de la population qui était là. Et aujourd'hui, il y a un nombre croissant de population. On ne peut pas maintenir ces 3 bureaux de vote. C'est impossible. Toute la population ne pourra pas effectivement exprimer son choix politique. Donc effectivement, l'administratif va être un support pour les élections politiques. Les deux vont de pair.
Faisant référence à la demande de ministère de l'Intérieur, la CEI revient donc à ce qu'elle a eu à dire. Il est demandé le maintien du découpage électoral de 2018. Quelle est la différence entre ce découpage de 2018 et celui de 2010?
Oui, le découpage de 2018 a permis effectivement des élections, vous l'aurez compris, apaisées. Voilà. Revenir dans un décret qui, lui, n'avait pas fait l'objet du consensus pose un gros souci. Mais au-delà même de cette invitation du ministre, ce qui me gêne un peu, c'est la procédure. Parce que le ministre, dans la nomenclature juridique, n'est pas au-dessus du décret, ni au-dessus de la loi. Donc quand un ministre demande à la CEI de se tenir à un ancien texte, il faut un document juridique à l'appui duquel il peut fonder cette nouvelle prétention. C'est vrai que la CEI et le ministère de l'Intérieur peuvent collaborer, mais demander à cette commission de laisser le texte pour appliquer un consensus, j'aimerais savoir de quel droit un ministre peut s'arroger autant de pouvoir.
Donc pour vous, cela peut remettre en cause, hein, une certaine indépendance de la CEI?
Non, je pense qu'ils ont en charge un dossier extrêmement brûlant, extrêmement compliqué, surtout dans nos pays africains, en matière d'élection. Et il faut, vraiment, pour un climat apaisé, il faut faire toujours attention aux prises de parole. La CEI est déjà sous le feu de critique depuis de nombreuses années, et effectivement, ce volte-face-là ne concourt pas à renforcer la confiance face à la CEI. Il ne faudrait pas, à quelques mois des élections, remettre tout en cause. Et toujours, il faut de la communication. Surtout quand on parle des élections dans nos pays africains.
Alors, mais de manière cartésienne, est-ce qu'il n'y a pas des règles pour l'application justement d'un découpage se basant sur les populations ou sur donc la superficie?
Oui, effectivement, le découpage, le mode de calcul qu'on connaît, c'est cette relation entre la superficie et le nombre d'habitants. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a des données comme le recensement général de la population, c'est un outil important dans le découpage. Mais n'oubliez pas aussi, la politique c'est ça, c'est de garder aussi longtemps que faire se peut le pouvoir. Donc, le découpage, c'est vrai, il a une utilité administrative, mais il est éminemment politique. Voilà. C'est pour ça qu'il faut un consensus dans le découpage, pour éviter des suspicions là-dessus.
Alors, ce communiqué de la CEI, qui cite le ministère de l'Intérieur, parle de suspension de ce décret de 2010, justement. On avait pensé que ce décret était abrogé. Non. Et pour vous, pourquoi 13 ans après, il est nécessaire d'appliquer ce décret-là?
Alors, là, il y a un souci. Avec quel découpage nous sommes allés en 2018 aux élections? Dans ce domaine-là, la CEI a un rôle important, mais en même temps important, elle est entre le marteau et l'enclume parce qu'elle est toujours sous le feu des critiques. Si un consensus a permis d'endiguer effectivement les crises pour les élections de 2018, il fallait nécessairement que le fruit de ce consensus-là fasse l'objet d'un texte précis. Donc je pense qu'il y a matière encore. Juste après ces élections, il faudra qu'on fasse un bilan. On voit ce qui n'a pas marché, ce qui reste à changer, et on modifie les textes pour éviter que la Côte d'Ivoire, qui a énormément d'atouts, mais n'arrive pas à endiguer la suspicion qui règne. Ce n'était pas nécessaire. On sortait encore de quoi? Des noms sur la liste électorale. On met, on enlève. On a fini de régler ça un peu. On revient encore dans l'application de 2010. Il y a trop de casseroles qui traînent qu'il faut régler.
Alors, dans le sens de l'apaisement, justement, est-ce que pour vous, les règles en matière électorale, en matière administrative, est-ce que cela doit être aussi transparent possible pour créer une certaine confiance, pour que ces joutes électorales puissent se passer sans suspicion?
Oui, c'est-à-dire il faut qu'on tire toutes les conséquences de ces couacs-là, pour qu'on puisse effectivement avoir des élections apaisées, pour que nous aussi, on puisse donner à nos enfants une Côte d'Ivoire apaisée.
Docteur Landry Amoussou, je vous remercie.
Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.
L'invité du jour est un enseignant-chercheur à l'université Péléforo-Gon Coulibaly de Korogo. Il se prêtait aux questions de Jean-Claude Comé. Avant de nous quitter, le rappel de l'essentiel. Élections locales, régionales et municipales couplées du 2 septembre prochain en Côte d'Ivoire, dans la région du Tonkpi. La CEI a sensibilisé les potentiels candidats relativement aux formalités légales des dossiers. Il a été aussi question pour le commissaire central de l'institution chargée des élections dans les régions du Tonkpi et du Bafing d'informer la population puis le corps préfectoral sur les nouvelles décisions prises pour des scrutins plus participatifs, inclusifs et apaisés. Selon Pierre Kwame Adjoumani, la loi du quota des 30% minimum des femmes va être appliquée avec deux méthodes. La première, la liste zébrée, et la seconde méthode est la liste alternée. Merci de votre attention. Je reviens à 15h pour le flash sur Radio de la Paix. D'ici là, voici la revue de presse présentée par Francis Cassie.
Bonjour à tous. Ouvrons notre revue de presse de ce mardi sur le commun des journaux